France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. Nous sommes pour une heure ensemble aujourd'hui pour manifester. Enfin, manifester pour quoi? Pour qui? Je ne sais pas. Peut-être pour la musique d'aujourd'hui, de création de notre temps. On ne sait même plus comment on l'appelle. En tout cas, le festival Manifeste à partir de demain nous la proposera, lui, tous azimuts, jusqu'au mois de juillet. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Philippe Hurel et Benjamin Dupé. Un extrait de Pigeon d'argile de Tanguy Viel pour le texte Philippe Hurel, pour la musique donnée au Théâtre du Capitole de Toulouse. Il y a un an tout juste, la saison dernière, et avec ici la voix de Gaël Arquez. Bonjour Philippe Hurel.
Bonjour.
Magnifique Gaël Arquez qui était là dans cette émission il y a une semaine d'ailleurs. Hein, magnifique comédienne et chanteuse ici parce que, évidemment, dans le baroque et bientôt dans la Belle Hélène de Jacques Offenbach. Ouais. Elle est très bien, mais aussi dans la musique de notre temps.
Elle n'en a pas parlé, mais j'ai entendu votre émission, alors j'ai réparé. Voilà.
On va entendre au début d'ici. Non mais c'est vrai, enfin vous me disiez avant, alors qu'on écoutait ceci, elle a une intonation absolument impeccable pendant une heure et demie de musique. Pourtant elle n'est pas facile votre musique. Hein.
Non mais elle est très forte.
Ah ouais, très très forte en effet. Très belle oreille. Gaël Arquez qu'on entendait donc ici dans cet opéra qui était votre premier ou pas, Philippe?
Alors j'ai fait un spectacle autour de Pérec sur Espèce d'espace en fait, qui était un truc entre les deux. En tant que traite musicale, et c'était un peu opératique, plus théâtre musical. Mais j'avais fait ça peut-être en préparation de... Pas en préparation, c'est mal dit. mais en sachant que j'allais écrire un opéra. Donc tout ça s'est enchaîné.
Et un vrai opéra, comme on dit.
Alors oui,
en plus, avec un vrai livrettiste, un vrai metteur en scène.
Oui, alors justement, avant de dire oui, c'est Frédéric Chambert, je le remercie, qui m'avait fait la commande au Capitole. Ça m'est tombé dessus un peu, j'étais très étonné, parce que c'est, voilà, j'avais pas réfléchi à cette problématique. Et donc j'ai mis beaucoup de temps avant de dire oui, parce que d'abord, je voulais trouver un texte avec, de quelqu'un avec qui je pouvais parler. Et comme j'avais lu la littérature de Tanguy, je lui ai demandé, il m'a répondu de façon très marrante, parce qu'on ne se connaissait pas par texto, je lui ai dit, vous voulez faire quelque chose avec moi ? Why not ? Réponse. C'est drôle. Et on s'est dit, bah, on va essayer de faire quelque chose, puisque en fait, c'est un peu l'histoire de Patty Hearst, le premier syndrome, enfin, le syndrome de Stockholm, un peu. Mais c'est pas le fond de l'histoire, mais enfin, c'est un peu la trame. Il y a beaucoup de références à l'opéra, à Pasolini, à l'opéra au cinéma, à Orson Welles, à Citizen Kane. Voilà, Tanguy Viel est un type assez cultivé pour truffer de références qu'on voit la première fois ou pas, d'ailleurs.
Avec des références qui étaient un peu les vôtres aussi, je crois.
C'est la oui, on a essayé, en tout cas. On a essayé, en tous les cas, de trouver des terrains d'entente sur plein de choses. Ouais. Et il a fait un très beau roman, enfin entre les autres romans qu'il a écrit, qui s'appelle L'absolue perfection du crime, qui est un livre que je recommande, parce qu'il est très beau. Et je lui avais dit, écoute, si on pouvait trouver le même rythme, pas la même histoire, mais le même rythme que ton roman, ça me plairait un genre de... À part ce qu'on vient d'entendre là, qui est un peu méditatif, on peut dire que cet opéra, il est tout le temps sur la brèche, ça va toujours très vite, et on en sort un peu essoufflé.
Vous,
ça
vous allez très vite d'ailleurs comme personne, hein, Philippe Poulain, je crois.
Un peu, ouais... À mon âge, j'essaie de me calmer, mais c'est dur. Avec l'aide d'un acupuncteur.
Vous dites à mon âge, justement, vous fêtez vos 60 ans cette année ?
Eh ben oui, je m'en étais pas rendu compte.
Ça m'a surpris, moi aussi. Je me suis dit, mais c'est l'éternel jeune homme, Philippe.
Ah, c'est
oh, 60 ans, c'est encore jeune, bien sûr.
C'est très gentil. Non, mais en fait, c'est arrivé très vite ces derniers temps.
Ça accélère.
Et en fait, je me suis fait un peu de pub personnelle. Vous savez que, comme je suis responsable d'un ensemble par ailleurs, j'essaie de faire la pub de mes camarades. Pour une fois, j'ai dit, tiens, si je m'occupais de moi. Et c'est un peu comme ça que le gimmick des 60 ans est arrivé.
D'accord.
Et qui a été relayé par l'IRCAM, par la Radio France. C'est très, très agréable, je dois dire.
Alors, 60 ans, évidemment, c'est un âge où normalement on a des souvenirs. Et je demande toujours à mes invités dans cette émission une madeleine, donc un souvenir. Et vous m'avez dit, un souvenir musical ? Non, rien. Vous en avez pas ? Vous n'avez pas envie ? Vous n'avez pas envie de regarder par le passé ?
J'en ai pas un qui m'ait marqué plus que d'autres.
D'accord.
C'est plus ça. Si je pouvais vous dire, je sais pas, la plus grosse claque que j'ai prise, j'avais 20 ans, c'est Les Maîtres Chanteurs.
Ah oui.
Voilà.
D'accord. Plus grosse claque musicale.
Voilà, j'avais la tête dans l'orchestre parce que j'ai pas regardé ce qui se passait sur scène tellement j'étais obnubilé par l'orchestre, par sa façon de traiter le temps. Et ça, c'est vraiment le gros truc de ma vie. Après, j'ai préféré Parsifal, mais il n'empêche que je crois que la rencontre avec Wagner a été déterminante dans ma vie.
Ah ouais. Grosse claque, dites-vous, j'ai lu quelque part aussi que parmi celles autres que vous avez reçues, Jonchée de Xenakis.
Complètement. Alors ça, pour la partie musique contemporaine, si j'ose dire, Jonchée. Non, en fait, j'étais dans une période où je refusais un peu la musique écrite, plutôt la musique orale, tradition rock, jazz rock, etc. Et je suis revenu à la musique écrite grâce à Xenakis, quelque chose qui était très étrange parce que les gens m'associent souvent à la musique spectrale, associent à l'IRCAM, blabla. Et en fait, c'est cette pièce et puis Sinafai de Xenakis aussi sont des pièces qui m'ont frappé par le. Elles étaient très proches de du côté violent du rock que je
que je pratiquais. Côté coup de poing, hein, voilà. Parce que Jonchée est une pièce qu'on connaît un peu moins que Métastasis, voilà. Mais qui est une sorte de déflagration.
Voilà, la deuxième partie, c'est un effet Doppler absolument génial. Et puis il y avait déjà des descriptions de parcours dans le temps qui m'interrogeaient. Moi déjà, je me disais, mais comment on pourrait organiser le temps comme ça, voilà. Donc Xenakis a été très, très, très important à une période de ma vie, c'est très clair.
Orchestre, eh bien, on va entendre justement une de vos pièces, Philippe, vous nous en parlerez juste après. Il se trouve qu'on verra de cette pièce-là la formulation définitive dans quelques jours, son titre très portrait, très atterré. Non, tour à tour.
Tour à tour.
Thank you.
C'est le chef d'orchestre Jean de Royer qui dirigeait ici votre musique, Philippe Hurel, et spécifiquement l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dans cette pièce intitulée « Donc, que tour à tour », vous me disiez tout à l'heure, enfin, on va revenir sur la création à venir du cycle complet, tour à tour, mais qu'enfin on vous disait souvent Hurel, le spectre, etc. Bah oui, mais enfin, quand on entend ça, c'est plein de spectres là-dedans, enfin de sons qui se développent.
Alors là, vous avez choisi un passage typiquement...
Particulièrement.
Voilà, alors ça c'est le tour à tour 3, c'est le troisième volet, ouais. Je ne les ai pas écrits dans l'ordre, j'ai fait 1, 3 et 2 pour finir avec l'électro. Pour des raisons pratiques, il n'y avait pas d'électronique disponible au moment où j'ai fait le 3, enfin voilà. Et oui, c'est l'un des grands passages du cycle où je me suis remis à écrire vraiment des grandes trames spectrales et qui sont interrompues par des blocs qui n'ont rien à voir avec ça d'ailleurs. Donc c'est un peu... Là déjà, on a une petite illustration de ce qu'est le tour à tour dans la partition. C'est en fait c'est pas des mélanges de techniques, mais c'est des collages aussi de choses qui fonctionnent pas tout à fait de la même façon.
D'accord.
Et après, certains...
Vous voulez dire des types d'écriture musicale, c'est
voilà,
ça?
Voilà. Mmh. Soit par groupe orchestraux, soit par deux groupes de solistes orchestraux qui seront traités par l'électronique dans la nouvelle pièce qui a été commandée par l'IRCAM et Radio France. Et donc, en fait, il y a cette idée qu'on est à la fois tour à tour non électronique, tour à tour acoustique, écriture pour orchestre pleine et fusionnante, non fusionnante par certains endroits, par groupe, pas par groupe, tempéré, non tempéré. C'est un genre de concerto pour orchestre, d'une certaine manière, en fait.
D'accord.
C'est un peu ça l'idée du... projet.
Qui sera donc créé en cycle complet ce vendredi à la Maison de la Radio, l'auditorium, ce sera le Philharmonique de Radio France, Jean de Royer toujours, qui sera la baguette, et on entendra donc les trois parties de cette pièce-là. Alors là, vous me parlez, Philippe Hurel, de questions musicales, tour à tour, des groupes, des machins, je comprends très bien tout ça. L'imaginaire, c'est quoi derrière tout ça? Derrière cette pièce-là, en tout cas.
En fait, c'est venu au départ d'une partition que je voulais écrire avec un minimum de matériel. C'est-à-dire une petite phrase au tout début, toute bête, on l'entend, il y a ch'ti, papa, ping, paté, paté, coché, côté, côté, coca. Ce machin-là, vous le déployez lentement, ça devient un genre de mélodie très lente, et on l'entend aux cordes par moment. Mm-hmm. Je me dis, je pars d'un petit. Alors là, j'ai fait mon Beethoven d'une certaine manière.
Un petit motif.
Je pars d'un petit motif de rien. En fait, c'est même pas un motif, c'est une petite enveloppe, parce que les hauteurs peuvent changer, les notes peuvent changer, mais c'est la courbe qu'on retient. Et je me dis, je vais essayer de d'abord faire 20 minutes avec ça. Voilà. Bon, j'ai fait les 20 premières minutes.
Et puis
je
me suis dit, une sorte de défi, comme ça,
voilà,
partir d'un petit motif de,
voilà,
rien.
De rien. Et puis je me dis, c'est très excitant de se dire qu'on pourrait tenir 40 minutes avec ça. Mmh. Puis pourquoi pas une heure avec ça. Voilà, donc l'idée est devenue...
Monothématisme obstiné.
Voilà. Et en plus, l'idée plus importante qu'il y avait, c'est avec un motif très minimal, avoir une profusion de sons. C'est-à-dire que l'orchestre en live, on entend beaucoup de sons. C'est assez épais, donc il y avait un genre de contradiction entre...
Pardon. Voilà. Redites-moi le thème en question, c'est quoi?
Le tour à tour?
Ouais, le thème que vous venez de dire, la peine d'arriver.
C'est-à-dire?
Bah, je sais pas, vous l'avez fait, t'es thème, t'as côté à pas ça.
Ah, t'es côté, ok, côté, 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 côté.
Vous faites pas vraiment les hauteurs, en fait, vous faites presque l'enveloppe verbale, comme si c'était à la fois une
phrase.
Là-dedans,
dans ce passage-là, mais à d'autres endroits, c'est il en va, dit en vie, vous avez cette enveloppe-là qui est mêlée en canon rythmique, et là, c'est traité par ordinateur pour le calcul, etc. Enfin, je me suis permis à peu près tout avec ce machin-là. Étirer, compresser, machin, mais ça, c'est vieux comme le monde, c'est du travail de variation.
C'est ça, vous dites variation, canon rythmique, on se rechète du faille, c'est pareil, quoi.
Voilà, exactement.
Enfin, j'exagère, mais...
Sauf que avec le gros orchestre, en mélangeant tout ça, en privilégiant la fusion, je ne veux pas automatiquement qu'on comprenne le système. Ça m'intéresse pas
sûr.
Du tout. Ce que je veux, c'est qu'on entende de la matière en fusion. Simplement, ça, ma cuisine, elle est dessous.
D'accord.
Et je
veux m'intéresser. Mais donc, l'idée, c'est la matière en fusion. Voilà, c'est ça, vous dites. Enfin, c'est ça qu'on a un orchestre qui exprime ça, quoi.
Ouais, et puis il y avait aussi l'idée que d'en finir avec la contrainte permanente dans une pièce, mais le fait qu'on puisse avoir des passages totalement libres d'écriture, avec toujours ce petit motif-là, enfin cette wave, cette enveloppe, faites ça comme vous voulez.
Les improvisations.
Voilà, mais que je puisse avoir un genre d'écriture improvisée, d'autres endroits d'une écriture très contrainte, carrément même en mettant des machines s'il le fallait pour écrire, et puis des passages qui résultent d'écriture un peu improvisée, les réintroduire dans le grand cycle en faisant autre chose, c'est-à-dire observer un peu ce qui sort de mon machin. Ce qui n'est pas ma nature, ce qui sort un peu de mon machin, c'est une très mauvaise expression, mais ce qui part un peu de...
C'est moi qui l'ai dit.
Ouais, mais vous avez souri. Mais ce qui sort un peu de ce machin d'écriture un peu intuitif.
Bien sûr, je comprends.
Et puis de le confronter à ce qui est beaucoup plus contraint. Voilà. Donc pour moi, c'était une forme de liberté, ce cycle. Voilà.
tour à tour donc de Philippe Hurel à voir tour à tour tous les éléments mais dans son entièreté vendredi à la maison de Radiedo, de la radio pardon, et ce sera en direct sur France Musique bien sûr hein,
ce sera le
philharmonique de ce sera diffusé une autre fois.
8.
D'accord.
Voilà,
très bien. Vendredi genre de Royal à direction, je l'ai dit. Et puis comme ce sera dans le cadre du festival Manifeste, il y aura une autre pièce qu'on pourra réentendre de vous, je dis bien réentendre parce qu'on a déjà cette trace. Philippe Hurel, un extrait de Trait d'Union, une pièce en duo pour violon et violoncelle. Ici, Alexandra Greffin-Klein et Alexis Descharmes, qu'on retrouvera tous les deux d'ailleurs lors du concert, autre concert de Manifeste qui vous sera consacré, Philippe Hurel. Le samedi 20 juin, ce sera cette fois au Centre Pompidou, puisque Manifeste est un festival itinérant, une douzaine de lieux cette année, tout au long du mois de juin, qui seront visités par cette musique. Et donc, cette pièce intitulée, donc, j'ai bien noté, Trait d'Union entre quoi et quoi ?
En fait, c'est un cycle, je suis dans l'âge des cycles.
Oui.
C'est vrai que j'ai une horreur maintenant à écrire des pièces de 10 minutes qui se perdent un peu dans la nature comme ça. Donc j'avais écrit une pièce pour violoncelle pour l'anniversaire d'Alexis Descharmes de 3-4 minutes. Il avait demandé ça à 30 compositeurs à l'époque, il avait fait ça à la Cité de la Musique. Ces 3 minutes sont devenues une pièce de 10 minutes, de 9 minutes pour violoncelle, qui s'appelle D'un trait. J'ai fait une troisième partie. Alors, je fais toujours un 3-2, je ne sais pas bien pourquoi.
Le gère dyslexie.
Le trait d'union, c'est devenir en fait le trait d'union à la fois entre le violon et le violoncelle, puisque le violon apparaît. Et ça va être le trait d'union entre deux pièces. Finalement, on le joue à la fin. Et j'ai réécrit une pièce de violon seul pour Alexandra Graffin-Klein, qui est au milieu du cycle. Donc, c'est un cycle pour cordes qui dure 35 minutes à peu près.
Ah, d'accord, pour les deux comme ça.
Voilà.
Mais ça doit être physique, dis donc, parce que là,
c'est. Oui. Non, c'est hyper difficile. Pour eux, physiquement, ils se plaignent beaucoup du côté physique, mais ils n'arrêtent pas de le jouer, donc ils sont maso, certainement.
Peut-être bien.
Donc voilà. Donc,
vous aimez justement mettre les musiciens à l'épreuve? C'est un jeu, ça, un peu?
En fait, si tout est jouable, j'aime beaucoup l'idée qu'on écrive des choses, enfin, personnellement, on écrit des choses tout à fait jouables, mais à la limite de la résistance, mais que rien soit totalement farfelu au niveau de l'écriture. C'est une écriture relativement simple dans la calligraphie. Et qui mettent des musiciens non pas en danger, mais dans un état de tension et de surenchère. En fait, je m'aperçois souvent, ils sont obligés de se calmer. Ils sont obligés de se dire, non, j'en fais trop. Parce qu'ils savent que ça les énerve. Ils me le disent tous, donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Et je trouve
que... Vous faites une musique qui les énerve.
Oui, qui les énerve au bon sens du terme. Qui leur dit, je vais te montrer ce que je sais faire, je vais y arriver. Et donc, du coup, je m'aperçois qu'ils livrent une tension qui pourrait m'échapper. Comme disait Ivo Malek, mon professeur de composition, qui est une tension, il appelle ça la plus-value. Voilà, la plus-value à ce qui est écrit. Et cette plus-value, moi je l'obtiens comme ça, d'autres l'obtiennent autrement, par des modes de jeu très chiadés, des choses comme ça. Moi c'est plus par cette difficulté à faire les choses dans la vitesse.
France Musique.
Il est midi 23, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi à nommer Ivo Malek, justement, parce que c'est le compositeur dont on va parler maintenant. Vous le vouliez, Philippe Curel, dans cette émission. Un professeur, vous l'avez bien nommé comme cela, on aurait pu citer plein d'autres gens. Et d'ailleurs, vous avez parlé de quelques chocs qui ont été les vôtres. On aurait pu parler de Jimi Hendrix, qui, je crois, que vous avez occupé très longtemps. Et
ça, c'est un énorme choc de mes 16 ans, c'est vrai. Ouais.
Mais enfin, Ivo Malek, c'était votre professeur pendant combien de temps?
3 ans, conservatoire. Ouais. Oui, et c'est quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup appris, parce qu'il n'essayait pas de nous enseigner quoi que ce soit qui dépende de son esthétique.
Ouais. Vous n'avez pas faire du Ivo Malek?
Pas de prosélytisme. Ouais. Son idée, c'était de faire de chacun de nous la personne qu'il devait être. Et ça, je lui en sais gré. C'était un grand, grand professeur. Et quand j'étais plus jeune, comme souvent les jeunes compositeurs, obsédé par le mouvement en vigueur qui m'excitait, le spectralisme, tout ça, je suis passé souvent à côté de ses pièces. Et c'est en vieillissant que je me suis mis à dire « waouh ».
Parce que lui, étant d'une autre génération, en effet, n'était pas tout à fait dans ce mouvement-là, enfin même pas du tout.
Pas du tout, non, il avait raison, il traçait sa voie, son sillon. Moi, c'est vrai, j'ai 60 ans, il avait 56 ans quand il était mon prof, un truc comme ça. Je me rends compte qu'il y a un moment où... Moi, je m'intéresse beaucoup aux jeunes compositeurs, j'en programme avec mon propre ensemble, j'adore, je lis beaucoup de partitions, mais ça ne m'influence pas tellement d'une certaine manière, parce que je continue à faire ce que j'ai à faire et je veux le faire jusqu'au bout. C'est mon affaire maintenant. Et Ivo était là-dedans, il faisait ce qu'il avait à faire. Évidemment, moi, je comprenais pas, parce que j'étais très intéressé par ce qui était dans l'air du temps. Et maintenant que
l'air du temps, pardon, à l'époque, c'était se positionner comme compositeur entre le sérialisme d'un côté et le spectralisme de l'autre.
En France, en tous les cas, c'était ça. Voilà. Puis à l'apparition de la Rodman à ce moment-là, dans les années 80, plus tard, donc voilà, on avait des trucs un peu comme ça. Plus les musiques électroniques, électroacoustiques, le computer, tout ça, mais on avait des choses comme ça qui étaient nos centres d'intérêt. Et quand je réécoute la musique d'Ivo avec le recul, maintenant, il y a des pièces que je trouve absolument magnifiques et qui sont des leçons d'orchestration et surtout qui posent un problème formel absolument incroyable, parce qu'il juxtapose des objets tout le temps différenciés, de façon à ce que j'aime l'intérêt tout le temps renouvelé au niveau de l'écoute. Et on voit aussi qu'il a travaillé avec l'électroacoustique, parce qu'on sent bien que cette écoute micro. J'en ai parlé avec Griset un jour, on était à un concert à Radio France, et Griset me dit à côté, je ne savais pas, il me dit, écoute comme il orchestre Ivo Malek, c'est quand même incroyable. Et venant de Gérard, je ne savais pas qu'il connaissait bien la musique d'Ivo, voilà, il m'avait encore surpris une fois de plus.
Bon, on va écouter justement, c'est votre proposition, Philippe Hurel, la musique d'orchestre, exemple-là, de Ivo Malek, sans manière de lui souhaiter un bon anniversaire, parce qu'il vient de fêter ses 90 ans.
Il a 90 ans, alors on a souhaité beaucoup celui de Pierre Boulez. J'aime beaucoup Pierre Boulez, mais j'aime beaucoup Ivo, et donc je suis ravi de... Voilà, et je lui ai dédié la pièce en création.
D'accord.
Qui sera jouée dans quelques jours.
C'est Arturo Tamayo qui dirige ici l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg dans cette incipit, première pièce de Exempla, un cycle encore hein, de Ivo Malek que vous nous proposez à l'écoute. Philippe Hurel, très belle musique en effet. Hein. Mm-hmm. Très étonnant parce que ça part aussi comme la voix de tout à l'heure. Enfin, c'est des séquences très très variées comme ça et on aurait presque envie de dire tour à tour d'un extrême à l'autre hein, encore.
Oh, j'imagine qu'on garde quand même quelques empreintes des gens qu'on a rencontrés dans sa vie.
Oui.
Ça me paraît normal, ça, tout à fait logique.
Ouais. Est-ce que vous enseignez vous d'ailleurs aujourd'hui?
Alors moi je suis prof au CNSM de Lyon, prof de composition depuis 2 ans.
Ah d'accord. Vous aimez ça?
Alors, au départ, j'ai tenté ça comme une expérience et je dois dire, j'adore ça, c'est terrible. Et alors, je crois que, alors, j'étais très intime, mes enfants ont quitté la maison et retrouver des jeunes gens dont je m'occupe, j'étais très triste quand le petit dernier a quitté la maison. Et là, retrouver des jeunes gens qui ont la vingtaine, ça me plaît énormément.
Ouais, sans mettre au contact de ça aussi.
Ouais, j'adore. Ouais. Et en plus, c'est un espace de fraîcheur et de pureté quand je vais les voir parce qu'on est dans une bulle. Avec des gens qui ne croient qu'à la même chose. Mmh. Et en dehors de toute contingence matérielle, et on est dans la musique avec des jeunes qui y croient à mort. Je trouve ça génial. Ouais. Dans une époque où personne ne croit à grand-chose.
Surtout à cette musique.
Voilà. Et j'adore vraiment ce moment.
Il est 12h30 dans le magazine qui vous est consacré aujourd'hui, Philippe Hurel. Votre questionnaire de Proust.
Oula.
Votre auteur favori. Tiens, vous en avez parlé tout à l'heure.
Eh ben, Pérec.
Ah, hein, Georges?
Georges Pérec, pour ce mélange entre contrainte et dérision permanent. Que moi,
et puis pour la construction aussi.
Ah ben oui,
obstiné.
C'est absolument incroyablement intelligent et à la fois tellement divertissant. Je trouve ça, c'est un truc qui m'occupe moi personnellement en tant qu'artiste. Être divertissant et très cérébral à la fois.
D'accord. En gardant cette idée de la construction qui est même obsessionnelle au sens.
Complètement. Voilà, c'est un obsessif et je revendique le même adjectif.
En art, c'est une belle valeur. Votre opéra préféré, vous avez failli le dire peut-être.
Parsifal.
Parsifal, oui.
Voilà.
Encore Wagner. Hein.
Encore Wagner, bah oui.
C'est-à-dire que Wagner vous occupe encore aujourd'hui?
Tout le temps. Tout le temps. J'ai des partitions à côté de moi.
C'est vrai?
Oui, oui. Je lis Parsifal.
Et pourquoi? Pour les couleurs, pour l'orchestre, la narration?
Pour la façon dont il résout les problèmes. Hein. J'aime beaucoup cette idée. Et ça, évidemment, on ne peut pas transposer, puisqu'on n'est plus dans la même époque. Mais simplement, cette façon de résoudre les problèmes me fascine, moi, toujours.
Que ça marche, un compositeur à résolution de problèmes, vraiment? C'est-à-dire qu'on pose, il y a des problèmes posés et on les résout?
Parce
que c'est pas l'instinct qui fait la chose et puis on dit après, j'ai résolu un problème.
Mais des problèmes tout bêtes, quelquefois, tout d'un coup, un orchestre énorme et tout d'un coup, la voix débarque, il y a un grand silence qui se fait. Comment il gère ça? Comment il gère la forme? Comment il gère les répétitions? C'est hyper redondant, Parsifal. Là, je suis dans un tour à tour qui va être redondant aussi, avec un motif qui revient tout le temps. Là, c'est le leitmotiv, moi, c'est autre chose, mais peu importe. Je veux dire, c'est quand même des idées qui ont traversé des époques. Moi, ça me parle, quoi.
Mmh. C'est pas incompatible, parce que j'étais en train de vous dire, il peut y avoir de l'instant au début et puis à un certain moment, les problèmes que pose l'instant.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Le don de la nature que vous voudriez avoir, Philippe Hurel?
J'ai répondu à cette question. Ouais.
Oh ben oui, j'aurais pensé.
J'ai dit le calme intérieur.
Absolument.
Oui, le calme intérieur. Oui, ça c'est vrai que je vis avec une épouse qui l'a et j'admire ça tous les matins. Je suis vraiment pas zen.
Et vous soignez ou vous les faites faire?
Non, je me soigne, acupuncteur, ostéopathe, tout ce qui est possible de faire.
D'accord. Et vous n'êtes toujours pas calme?
Non.
Ben, alors, il faut arrêter de se soigner.
Non, mais attendez, ça m'aide beaucoup, je serais complètement speedé. Tandis que là, j'arrive à travailler quand même calmement. Mais je dois vous avouer que quand je compose, tout se calme directement.
Ouais. Votre principal défaut?
Je sais pas, je crois que
l'obstination,
vous m'avez dit. Ouais, je suis très obstiné.
D'accord.
C'est-à-dire, je ne lâche jamais le morceau, je m'en veux. Parce que je trouve c'est idiot, il y a des moments où il faut savoir dire non, ça se fera sans moi, etc. Je n'ai jamais le morceau, quitte à faire des conneries par moment. C'est-à-dire, je veux vraiment aller jusqu'au bout du truc, moi-même, en m'occupant de tout. J'ai vraiment beaucoup de mal à déléguer aussi. Tout ça fait partie de ce trait de caractère qui n'est pas toujours intelligent.
Le compositeur de 60 ans recherche de zénitude.
Complètement. Pour ça, je fais du jardin maintenant, mais c'est vrai.
Ah oui,
mais c'est vrai,
ça jardin. Calme ça aussi.
Hein. Ah ça, c'est génial, c'est fabuleux.
D'accord. Votre devise? Philippe, vous m'avez répondu.
Ah oui, on les aura. C'est une devise de mon père que j'adore. Il est toujours vivant, il a 88 ans. Le matin, il dit, t'inquiète pas, on les aura. Et quand j'étais petit, finalement, je me disais, mais qui?
Parce que ça, oui, c'est qui les...
C'est tout le monde. On les aura. Alors, par exemple, si on applique ça au concert dans quelques jours, on les aura. Le public va marcher, l'orchestre va jouer, le chef va être en pleine forme. On va les avoir. Enfin, c'était un peu ça le... Et ça me tient lieu de passez-moi l'expression, de patate et de pêche le matin, parce que j'ai toujours ça dans la tête, ça paraît dingue. Mmh. Et ce « on les aura » m'a toujours tenu en forme.
Une dernière, comment vous aimeriez mourir?
En m'y préparant, c'est-à-dire j'aimerais pas mourir comme ça d'un accident brusquement.
Sans voir le truc venir.
Ouais, c'est atroce à dire parce que les gens souffrent quand on voit les gens souffrir, on aimerait pas souffrir, mais à la fois essayer de se mettre en règle un peu, d'autant qu'on vit dans des... Là, je vais être un petit peu plus très sérieux, on vit dans une époque avec des métiers qui nous laissent peu de temps pour être un peu mystique, si j'ose dire. On est tout le temps dans la réalisation de choses, on est pressé, il faut rendre des partitions, jouer très vite. On résout des problèmes techniques et pratiques tout le temps. Et moi, je regrette de ne pas avoir... Le jardin, par exemple, je dis ça sans blaguer.
C'est un jardin spirituel.
Oui, c'est un endroit où quand on regarde pousser les arbres, on prend le temps. Voilà. Et donc, je sais pas. En tous les cas, j'aimerais bien m'y préparer.
Plusieurs fois, vous parlez du temps depuis le début de l'émission, hein, que ce soit celui
qu'on
travaille comme compositeur ou celui qu'on prend pour regarder les choses.
En plus, on est tous d'accord là-dessus, c'est que quand on prend de l'âge, on mesure le temps qui reste et on se dit qu'il faut l'occuper de la façon la plus intelligente possible. Donc, il faut essayer de stretcher. Il faut pas peur de s'ennuyer. Et je me suis ennuyé il y a pas longtemps, 2 jours, parce que j'ai pas pu faire le travail que je voulais. Ça m'arrive jamais de m'ennuyer tellement je suis occupé. Et au bout de 2 jours, je me suis aperçu que c'était vachement bien. Que finalement, je m'étais vraiment ennuyé. Et donc, le temps m'a paru long.
C'était bon.
Oui, c'est pas désagréable que le temps paraisse, non.
On va revenir, Philippe Hurel, à vos pigeons d'argile. C'est un extrait de l'opéra de Philippe Hurel, Pigeon d'argile, qui était donné l'an dernier au Théâtre du Capitole de Toulouse. Vous y relanceriez dans l'opéra, Philippe ?
C'est vrai que l'opéra, physiquement, ça pompe énormément. Mmh. On est très fatigué. Après, pour de multiples raisons, il n'y a pas que l'écriture, il y a beaucoup de corrections, il y a les répétitions, il y a une pression énorme. Donc, dans l'immédiat, dans les 2 années qui viennent, de toute façon, j'ai beaucoup de travail, j'y arriverai pas, mais j'y pense déjà. En attendant, avec Tanguy Viel, on a déjà d'autres projets. Un opéra de plus un mini-opéra, disons. Un opéra de chambre. Et on a envie de continuer à faire équipe.
D'accord.
Voilà, vraiment.
Confiance en l'avenir, donc, bien que la musique contemporaine, aujourd'hui, on se demande comment elle peut exister dans la situation budgétaire, esthétique, politique, globale.
Alors là, c'est très curieux, parce que d'une certaine manière, les compositeurs d'une certaine génération croulent sous les commandes, on est plutôt à les refuser qu'à les accepter, donc il y a quand même un truc très étrange. Et par ailleurs, il y a quand même un nombre d'ensembles qui crèvent la dalle, de musiciens qui n'ont plus leurs heures, qui seront plus intermittents, voilà. Alors, on peut toujours invoquer la crise, moi je n'y crois pas du tout. Il y a un manque de volonté politique qui est clair. Et je pense, et là puisque j'écris, je parle d'orchestre et que j'écris pour orchestre, je pense notamment à la carte à jouer pour les orchestres aujourd'hui, c'est justement de remoderniser leur façon de se positionner, par le répertoire, mais aussi par la façon de revoir les programmes et attirer un public plus jeune qui sera beaucoup plus à l'aise avec des musiques contemporaines qu'on le croit. Je vois toutes les expériences que je monte avec mon propre ensemble, on peut convaincre des gens, mais dans des contextes absolument incroyables.
Il n'y a qu'à y aller, quoi.
Il faut y aller. Mais y aller,
mais on faut voir.
En ce moment, tout le monde angoisse, mais il faut y aller, c'est le moment d'y aller, je crois.
France Musique. Allons-y donc vers la deuxième et dernière partie de cette émission à 12h40 avec Benjamin Dupé. Bonjour.
Bonjour.
Compositeur, vous aussi, vous serez présent aussi au Festival Manifeste pour 3 présentations d'un spectacle intitulé « Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières ». Ce sera à partir du 18 juin. Vous entendez depuis tout à l'heure Philippe Hurel. Qu'est-ce qui vous inspire de ça, dans tout ce qui vous dit Philippe, enfin dans tout ce qui nous dit à nous avant de vous le dire à vous?
Ah, peut-être le lien que je pourrais faire dans notre entretien, oui, c'est le rapport au temps. C'est vrai que c'est... Bon, c'est une obsession qui est assez banale pour un compositeur, mais c'est vrai que moi, je parle du rapport au temps et du temps de l'écoute. C'est la question de l'écoute qui est vraiment centrale dans mon travail, qui me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire comment l'auditeur rentre en résonance dans la musique. Et en écoutant Philippe, il y avait une nouvelle image qui me venait. Merci, parce que je vais peut-être parler de mon travail comme ça maintenant. C'est cette idée qu'au départ d'un concert ou d'un, en l'occurrence, moi, c'est un spectacle de théâtre musical, mais voilà, il y a comme une sorte de train qui se met en marche, qui serait le temps, et simplement chaque place dans ce train est montée sur élastique. Donc les gens vivent pas forcément le trajet de la même manière. Il y en a qui restent en arrière, puis vont se retrouver catapultés devant au bout de quelques instants.
On vit pas le même temps.
Oui, voilà. Alors je pense que l'endroit du travail, il est là, c'est que à la fois on ne vit pas le même temps, et pourtant du point de vue de ce qu'on appelle la grande forme. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait un trajet, il faut qu'il y ait un monde. Et toute cette dualité entre une grande forme qui a sa propre logique et un espace laissé à la vibration intime et personnelle de chaque auditeur, je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, en ce moment.
Est-ce que ça veut dire que vous intéressez à l'intime de chacun? Enfin, cet intime qui est le rythme que chacun aurait et qu'on ne peut pas connaître, de toute façon, parce que vous ne savez pas quels auditeurs vous aurez dans la salle.
Oui, c'est vrai. Et c'est, oui, et, mais ça, je le dis souvent, je me projette beaucoup quand j'écris ou quand je compose. Alors, c'est certainement vain, mais en tout cas, c'est ce qui m'anime. Je me projette vraiment dans la réception individuelle. Oui. De la musique. Alors, peut-être ça vient de...
Ce que l'auditeur en reçoit.
Voilà. Ah, ouais. Peut-être ça vient de mon parcours, parce que moi, j'ai commencé comme instrumentiste, donc j'avais un rapport très direct à la fabrique de son et à la fabrique de musique. Et voilà, cette dimension-là m'intéresse beaucoup. Ouais.
Alors, avant que vous nous parliez de ce spectacle, on en a un extrait pour le découvrir. Thank you.
C'était donné en création en octobre dernier à Valenciennes. Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Par le quatuor Tana, c'est donc un spectacle, on reviendra là-dessus. C'est votre musique, Benjamin Dupé, qu'on entendait là. Alors je reviens comme sur les sonorités qu'on vient d'écouter, qui sont assez étonnantes, qui me faisaient penser à ce moment à du George Crumb un petit peu, cette musique d'insectes, très, oui, avec ces sonorités un peu, ça vous va comme référence ou non?
Oui, oui, très bien, mais, non, mais d'autant, c'est peut-être l'occasion de parler de la collaboration avec le quatuor Tana, qui est un jeune quatuor très brillant et avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Alors, notamment parce qu'on a travaillé vraiment conjointement, alors pas dans une collaboration musicale, faut pas aller jusque-là, mais sous forme d'atelier, c'est vrai que j'ai vraiment pris de leurs spécificités, des modes de jeu qu'ils m'ont proposé. Alors, ils en ont vraiment une palette qui sont spécialisés dans le répertoire contemporain. Et d'une manière générale, dans ma musique, voilà, c'est un peu le pendant de ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi un travail sur le geste instrumental, sur son expressivité.
Et vraiment des musiciens que vous avez sous la main.
Exactement. Et sur un travail sur les matières, sur les matières sonores. Donc là, oui, il y a des balayages harmoniques avec des scordatures différentes pour les instruments. Mmh. Et un travail très, très gestuel de pids aussi sur le violoncelle.
Alors pour autant, c'est avec un quatuor que ça se fait, mais c'est pas un quatuor à cordes. Un spectacle, on l'aura bien compris, qu'on pourra revoir au festival Manifeste, au théâtre de Montreuil, les 18, 19 et 20 juin, tout ça autour d'un texte de Pascal Quignard, qu'on connaît bien, qui est La haine de la musique, un texte qui a quelques années déjà, une vingtaine maintenant, mais qui est toujours, on a l'impression, d'actualité, surtout ces derniers temps, non?
Oui, l'actualité, oui, c'est vrai qu'il y a, on en parlait à l'instant là, hors micro, il y a plusieurs projets qui sont sortis en même temps à partir de ce texte. Moi, je dois dire que c'est un texte que j'ai découvert à sa sortie et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et il m'a fallu le temps de le digérer. C'est-à-dire que très rapidement, j'avais assez envie de le partager d'une manière ou d'une autre avec un public. Et il m'a fallu du temps pour me sentir à l'aise, pour prendre du recul et me sentir libre d'aller chercher dans ce texte, d'aller sélectionner des passages et d'en faire... puisque je signe aussi la dramaturgie, donc j'ai fait le montage des textes. Peut-être dire deux mots, c'est très, très délicat de résumer comme ça rapidement ce livre, La haine de la musique. Peut-être le faire en parlant du titre que j'ai choisi pour mon spectacle, qui est « Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières », qui est le titre du deuxième des traités qui composent ce livre. Voilà, le livre est une réflexion qui traverse les âges, les époques et les territoires et la géographie sur la question de la musique et la question de l'écoute, la question de l'écoute du son. Et finalement, il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Je simplifie la pensée de Quignard, mais ça veut dire deux choses très très contradictoires et très ambivalentes qui sont fondées sur le même constat. Le constat, c'est qu'on ne peut pas fermer les oreilles, qu'on entend sans un instant de cesse, donc qu'on est tout nu face au son en permanence.
Alors qu'on peut fermer les yeux si quelque chose nous plaît pas.
Exactement. Et ce fait d'être tout nu face au son... D'un côté, Quignard le décline dans l'idée que l'endroit de la nudité, c'est l'endroit de la sensualité, de l'amour, du trouble, de la spiritualité. Donc c'est plutôt c'est l'endroit de l'inouï, de la fascination devant l'étrange, de l'intimité. Voilà. Et évidemment, de l'autre côté, puisque c'est très ambivalent, c'est aussi l'endroit par lequel on est agressé, par lequel on est manipulé. Donc la musique fait mettre au pas, la musique a été utilisée dans les camps de la mort, la musique serait liée à la mort de façon ontologique pour Quignard. Il pose la thèse que les premiers instruments de musique étaient des instruments de chasse, que la lyre, c'est la même chose que l'arc, que la peau qui sert à piéger l'oiseau pour le tuer, c'est la flûte. Enfin, donc il y a cette balance entre d'un côté très sombre et terrifiant et un côté très très lumineux, très beau et qui donne beaucoup d'espérance, et c'est cette chose-là qui m'intéressait dans le livre.
Alors on va écouter justement un extrait du texte de Pascal Quignard à l'intérieur même de ce spectacle-là, puisqu'il y a un récitant qui nous le dit sur les notes du quatuor à cordes.
Tout son est l'invisible sous la forme du perceur d'enveloppe. Qu'il s'agisse de corps, de chambres, d'appartements, de châteaux, de cités remparées, immatériel, il franchit toutes les barrières. Le son ignore la peau, ne sait pas ce qu'est une limite. Il n'est ni interne, ni externe. Illimitant, il est inlocalisable. Il ne peut être touché, il est l'insaisissable. L'audition n'est pas comme la vision. Ce qui est vu peut être aboli par les paupières, peut être arrêté par la cloison, la tenture, peut être rendu aussitôt inaccessible par la muraille. Ce qui est entendu ne connaît ni paupières, ni cloison, ni tenture, ni muraille. Indélimitable, nul ne peut s'en protéger. Il n'y a pas de point de vue sonore. Il n'y a pas de terrasse, de fenêtre, de donjon, de citadelle, de point de vue panoramique pour le son. Il n'y a pas de sujet ni d'objet de l'audition. Le son s'engouffre. Il est le violeur. Il se trouve que l'infini de la passivité se fonde dans l'audition humaine. C'est ce que je ramasse sous la forme. Les oreilles n'ont pas de paupières. Le son touche illico.
Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Un extrait du spectacle de Benjamin Dupé qu'on entendait donc là avec le texte de Pascal Quignard et votre musique interprétée par le quatuor Tana. C'est marrant la manière dont vous le mettez en musique parce qu'en général, quand on est dans la formule mélodrame, ça prend tout de suite des formes un peu emphatiques, Benjamin Dupé. C'est pas le cas du tout ici, hein. Je crois que vous avez pris des leçons de rapidité, de vitesse et d'excitation chez Hurel.
Absolument. Je souriais intérieurement quand Philippe s'auto-qualifiait d'excité. Bon, ça, c'est un passage un petit peu agité, mais enfin, c'est parce que c'est le sens du texte qui le demande. Il s'agit du son qui perce toutes les enveloppes, toutes les parois, qui circulent. Donc il y a cette idée d'ubiquité. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une autre... Philippe parlait tout à l'heure de la tension, finalement, qui demandait, enfin, que son écriture demandait aux interprètes. C'est vrai que là, dans ce passage-là particulièrement, il y a une tension qui est très grande, qui est celle finalement du quintet que forment le comédien et le quatuor à cordes. Puisque je dis souvent, en dehors du petit passage qu'on a entendu en introduction, qui est d'ailleurs la coda du spectacle, la coda instrumentale, et qui a un sens dramaturgique particulier. Mais en dehors de ce passage-là, c'est vraiment... j'ai pas écrit un quatuor à cordes, j'ai écrit un quintet avec voix. Et avec voix parlée, donc j'avais très envie justement de ne pas aller dans le mélodrame pour plein de raisons. Une question esthétique, voilà, sur laquelle j'ai pas à me justifier parce qu'elle m'est très personnelle. Mais surtout, il y avait un danger avec le texte de Quignard, parce que Quignard a une langue magnifique, extrêmement savante, et du coup, elle pourrait passer pour un petit peu professorale. Et j'avais très envie, au contraire, dans Quignard, de trouver des endroits de jeu. C'est une parole de plateau et des endroits de musique.
Donc, ce qui est marrant, c'est aussi cette volonté de rendre un texte accessible. Vraiment, enfin, vous allez me dire, c'est normal à partir du moment où vous penchez sur lui, mais c'est quand même très souvent, on se rend bien compte que les textes sont des sortes de prétextes comme ça, où le compositeur rêve ou machin. Non, là, il s'agit de rendre le texte audible, vraiment.
Oui, tout à fait. Je voulais vraiment qu'il y ait une parole. Le défi, c'était d'avoir une parole naturelle, presque naturaliste, en même temps complètement imbriqué dans l'écriture musicale. Donc plutôt en jouant sur les rythmes, sur les timbres, les placements de voix, les endroits de respiration. Et la partition d'ailleurs est faite comme ça. Les barres de mesure en fait sont les mots. Et donc tous les deux ou trois mots, il y a une barre de mesure qui correspond à quelque chose pour le quatuor.
Philippe Hurel, intéressant tout ça, hein. Enfin déjà le texte qu'on connaît.
C'est d'autant plus intéressant que moi dans l'espèce d'espace, c'est pour ensemble un récitant et une chanteuse. Le récitant ne lit pas la musique. Et donc, je suis arrivé au même raisonnement. C'est-à-dire, pour dire Pérec, il a appris rythmiquement toute la partition et je lui ai mis des notations comme ça. Et j'ai essayé d'échapper aussi, alors je suis totalement d'accord avec toi, au côté dramatique. Alors, Pérec, c'est pas toujours dramatique, mais il y a des endroits qui auraient pu l'être. Et l'acteur, il est pris dans la texture rythmique de l'ensemble. Pour lui, c'était une gageure terrible, parce qu'il n'est pas musicien. Mais c'est marrant parce que ton parti pris, je le comprends.
Vous retombez sur les mêmes trucs.
Oui, mais c'est très intéressant parce que l'acteur devient un musicien parlant à l'intérieur de l'ensemble.
Ouais, même s'il ne connaît pas la musique.
Voilà.
Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières au théâtre de Montreuil entre le 18 et le 20 juin. Il y aura une rencontre auparavant, entretien avec vous, Benjamin Dupé, autour de cette œuvre. Ce sera mardi 9 juin, la semaine prochaine. Sans vous entendre parler là-dessus, ce sera Montreuil aussi, je crois, également ceci. Et Philippe Hurel, je rappelle donc les deux spectacles qu'on pourra voir de vous au Festival Manifeste, vendredi à la radio, autour de Tour à Tour. Et puis, le 20 juin aussi. Maintenant, je voulais oublier quelque chose d'important, comme il y aura un film aussi qui sera visible ce vendredi à 18h30.
C'est ça.
C'est quoi le film d'ailleurs? On vous a suivi dans en quoi?
On m'a fait. Enfin, c'est Benizot qui l'a filmé. Thierry Paul Benizot, qui est habitué à faire des films sur les compositeurs. Qu'on a fait un très beau sur Philippe Leroux il y a pas longtemps. Et il m'a à la fois filmé au travail, dehors, et puis aussi dans une librairie chez Colette à rue Rambuteau. Et ça m'a beaucoup. Ça, c'est le passage qui m'a plu le plus parce qu'il m'a fait parler de littérature. Je trouve ça passionnant. En fait.
D'accord, très bien. À suivre ça à 18h30 ce vendredi. Un dernier extrait de Quignard Dupé.
Ciao, fou! Pousse à plus loin que hier. Le mépris des choses politiques. Alors qu'il descendait le flanc dans la vallée pour aller faire boire son bœuf dans la rivière, ciao, fou! Accroupi sur la rive, penchant la tête à droite, inclinant la tête à gauche, en train de se laver les oreilles. Kaoufou s'approcha de Yin Yeou et après l'avoir salué à plusieurs reprises, demanda la raison de ces gestes rythmés. Yu Yu, rétorqua. L'empereur Tiao m'a proposé de prendre les rênes de l'Empire. Voilà pourquoi je suis en train de me laver soigneusement les oreilles. Tout le haut du corps de Chao Fu frémit. Il considéra, en pleurant, la rivière. Chao Fu tira son bœuf par le licol et ne lui permit plus de boire dans la rivière où Yeu Yeu avait lavé des oreilles qui avaient entendu une semblable proposition.
Une histoire d'oreille telle que nous la raconte Pascal Quignard, mise en musique par Benjamin Dupé pour ce spectacle. Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières, avec la voix de Pierre Beau et le quatuor Tana. Ah oui, ça tranche au générique de fin. Merci à mes invités du jour. Cette émission a été préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Alexandre Billard et Sophie Saliot-Marie.